Nous l'avons chanté ce matin, nous l'avons dit dans nos louanges, proclamé dans nos louanges. Nous l'avons proclamé dans nos louanges. Nous avons vraiment un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est magnifique, un Dieu qui est grand, qui est bon. Nos mots sont vraiment faibles pour dire ce qu'est Dieu. Il nous dépasse tellement. Et c'est merveilleux de voir comment Dieu nous a conçus et comment la manière dont nous sommes conçus, dont nous sommes créés, ça dit justement de qui il est, de ce Dieu magnifique qu'il est. De voir comment toutes les facultés que possède l'être humain, toutes les connaissances qu'il peut accumuler, tout ce qu'il peut découvrir sur la nature, sur lui-même, tout ça, ça dit de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a donné toutes ces facultés. Et quand on voit aujourd'hui la connaissance que l'être humain peut avoir de lui-même, à quel point cette connaissance s'est développée sur le plan biologique, sur là, maintenant, on peut explorer des choses, on connaît des choses au niveau de l'infiniment petit, au niveau des cellules, au niveau des atomes, du cerveau. C'est vraiment merveilleux de voir comment notre connaissance s'est développée sur le plan psychologique aussi. On comprend des choses sur le développement des enfants, de l'être humain. On peut aider aussi les parents, les familles par rapport à cela. La connaissance que l'homme a de lui-même, c'est vraiment beaucoup développé. Mais le travers, c'est que ce que l'homme a tendance à faire, c'est enfermer l'être humain dans ce qu'il comprend de lui, dans la connaissance qu'il a de lui. Au départ, l'être humain, la Bible le dit, il est corps, âme et esprit. Il est esprit, âme et corps. C'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Mais aujourd'hui, on a tendance à mélanger l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, on sait, c'est la même réalité, ça parle de la même chose. Que ce soit l'intelligence humaine ou que ce soit des choses la croyance, tout ça, c'est la même chose. On en vient même jusqu'à dire que finalement, l'âme, c'est qu'une sécrétion du cerveau et que quand le corps va mourir, l'âme mourra avec. Aujourd'hui, c'est la pensée dominante sur l'être humain. Mais bien sûr, il y a toute une partie de l'humanité qui croit que l'homme a un esprit, que l'homme a cette partie spirituelle, et il la recherche. Et c'est ce que l'on voit au travers des religions. Mais là encore, la manière dont l'homme recherche cela, finalement, ça se fait au travers de rites, ça se fait au travers de règles, ça se fait au travers de choses qui s'avèrent en fait stériles, qui ne donnent pas la vie à l'homme. Ça se fait au travers de choses qui s'avèrent stériles quand ce ne sont pas des choses qui sont même dangereuses au travers de pratiques occultes. Parce que dans les pratiques occultes, on recherche ce qui est de l'ordre de l'esprit. Mais c'est dangereux parce qu'on vient toucher à des choses spirituellement qui ne sont pas de Dieu et qui peuvent prendre du pouvoir dans notre vie, que ce soit les pratiques occultes ou aussi des spiritualités qui sont fausses. Je pense au New Age, je pense à différentes choses comme ça. Mais effectivement, la Bible le dit, l'homme et corps, âme et esprit. Sauf que ce qu'elle dit aussi, c'est que l'homme est spirituellement mort. L'humanité a perdu l'esprit. L'humanité a perdu l'esprit et c'est pour ça que ça se manifeste aussi par tous les dérèglements qu'on peut vivre, que ce soit dans nos personnes, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos relations. Ça se manifeste de cette manière. Mais ce que la Bible dit aussi, ce que la Bible annonce, ce que la parole de Dieu annonce, c'est que l'homme peut retrouver son esprit. Cet esprit qui est mort peut être régénéré. Cet esprit peut être rendu vivant en recevant celui, en recevant Dieu qui est venu en la personne de Jésus. Qui est venu en la personne de Jésus. Et quand je reçois Jésus dans ma vie, quand je crois qu'il est Dieu fait homme. Et quand je crois qu'il est venu pour moi, pour justement me délivrer de cette mort, alors je suis réconcilié avec Dieu et je reçois son esprit. Je reçois l'esprit de Dieu et mon esprit, cette partie de mon être qui était morte, redevient vivante. Elle est régénérée. Voilà pour résumer en quelques mots le message que j'ai pu donner la dernière fois. Mais je ne sais pas s'il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Peut-être ça peut paraître prétentieux de dire que voilà, ben, le seul moyen finalement de retrouver l'esprit, le seul moyen que notre partie spirituelle elle redevienne vivante, c'est Jésus. Mais je vous invite, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, je vous invite à écouter jusqu'au bout et à mettre de côté vos raisonnements et à laisser Dieu, par son esprit, vous parler. Mais quel que soit l'endroit où on en est, quel que soit le chemin auquel on est arrivé, que l'on ait accepté Jésus ou pas, que l'on ait reçu cet esprit, que notre esprit soit régénéré ou pas, il y a toujours un combat. Il y a toujours un combat parce que dans ce monde, l'esprit de ce monde veut étouffer l'esprit. Il veut empêcher cet esprit de renaître. Il veut empêcher ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Comme il veut empêcher que notre esprit se développe. Comme il veut empêcher que nous laissions plus de place au Saint-Esprit dans notre vie. Et ça, Paul parle de ce combat, et c'est sur ce texte que je voudrais revenir ce matin. Il en parle dans la première lettre qu'il adresse aux Corinthiens, au chapitre 2. On va lire le texte ensemble. Donc c'est à partir du verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme, dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Je continue la lecture jusqu'au verset 3 du troisième chapitre. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ? Voilà ce que nous dit Paul, hein, toutes les tournures de phrases dont Paul a l'habitude, qui des fois sont un peu compliquées à comprendre. Pourquoi est-ce que Paul dit ça aux Corinthiens ? Parce que les Corinthiens, ils sont dans une société grecque. Ils sont imprégnés de la philosophie grecque. Et dans la philosophie, ils utilisent en fait la philosophie, cette culture dont ils sont imprégnés, pour essayer de comprendre Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Hein, d'ailleurs, voilà, ils le manifestent. Les dons spirituels se manifestent dans cette église. Hein, Paul dit même qu'ils manifestent tous les dons. Mais le problème, c'est qu'ils essayent de comprendre Dieu par la sagesse humaine. Et ça, c'est impossible. Et c'est ce que Dieu leur explique au travers de Paul. L'âme, qui est notre intelligence, qui est nos émotions, on ne peut pas comprendre les choses de l'esprit par l'âme. On ne peut pas dire ce qu'est l'esprit par l'âme. L'âme, en fait, c'est comme, nous sommes faits corps, âme et esprit, l'âme, c'est comme un pivot. Par exemple, le système de gonds d'une porte. Soit l'âme va ouvrir vers le monde du corps, de la matière. Par exemple, quand je suis en train de penser à ce que je ressens dans mon corps, c'est ce qui se passe. Soit l'âme va ouvrir sur le monde de l'esprit. Et on va essayer de dire avec nos mots cette expérience que l'on vit dans l'esprit, même si nos mots sont pauvres. Voilà. L'âme, c'est en grec, c'est psyché. Un psyché, c'est un miroir. Soit l'âme nous permet de regarder au monde du corps, soit elle nous permet de regarder au monde de l'esprit. Où c'est un miroir qui va être orienté
vers et refléter ce qui est de l'ordre de la matière, du corps, ou refléter ce qui est de l'ordre de l'esprit. Mais l'âme par elle-même, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas connaître ce qui est de l'esprit. Et quand la science, la religion, la philosophie essayent de dire ce qu'il en est de l'esprit, mais d'une manière où finalement l'homme, c'est ce que nous pensons qu'il est, c'est comme ça, quand elle vient dire bah, l'esprit, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Ou quand elle vient dire que bah, l'esprit, c'est comme ça, même il y a ce qu'on appelle, Alain en avait parlé il n'y a pas longtemps, la théologie libérale. La théologie libérale, c'est une théologie finalement où on vient expliquer toute la Bible, et en particulier ce qui est surnaturel, par des choses naturelles. Et il n'y a plus de surnaturel. Quand on fait ça, on enlève ce qui est de l'esprit et on vient dire, ben voilà, notre pensée, voilà, c'est notre pensée qui dit ce qui est de l'ordre de l'esprit. Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Finalement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'instruire Dieu. Écoute, Dieu, t'es bien gentil, mais t'as tout créé, voilà, il y a ta parole et tout ça, mais voilà, quand même, laisse-nous te dire, nous, ce qu'on en pense. Et c'est cela que l'on fait. Et cela, nous le faisons même quand nous connaissons l'esprit, même quand notre esprit a été régénéré, parfois notre manière de vivre notre foi, elle peut s'imprégner. On fonctionne avec notre âme et pas avec notre esprit. Par exemple, quand on est dans une prière où on n'est que dans l'expression de nos besoins et on ne vient pas louer Dieu et on ne vient pas mettre Dieu en premier, ce qui compte, c'est nos besoins à nous. Et puis, ce qui est important pour Dieu, bah, ça passe au second plan. Là, on fonctionne avec notre âme. Quand nous sommes dans des moments de louange, où ce qui compte dans le moment de louange, ça va être plus la forme de la louange, ça va être plus le style de la louange, ou alors ça va être des louanges qui finalement sont plus guidées par nos émotions, ou alors on est juste là pour chanter, là c'est que la raison, ben là, voilà, on fonctionne avec notre âme. Dans le monde évangélique en particulier, on est dans... Ça n'arrête pas de tourner, il y a beaucoup d'œuvres. Et ça témoigne aussi de la vie de Dieu, il y a toute une activité. Mais il y a des fois, ça c'est ma réflexion, je me demande dans quelle mesure ça témoigne de Dieu quand il y a des œuvres finalement, des œuvres qui s'accomplissent au prix du burn-out, des responsables qui aussi sont à la source des œuvres. Bien sûr, il y a des choses spirituelles, hein, il y a des attaques. Mais dans quelle mesure, des fois, il y a nos efforts humains qui rentrent en compte dans ces œuvres? Il y a nos efforts humains qui rentrent en compte dans le service que l'on veut rendre à Dieu. Et là, c'est pareil, on fonctionne au niveau de l'âme. Tu peux aller à l'autre diapo? En fait, c'était ça. Sur toute la partie dont j'ai parlé. L'homme naturel, on fonctionne avec l'homme naturel ou l'homme psychique. L'homme psychique, c'est l'homme qui fonctionne avec son âme. Et quand on fonctionne comme ça, en fait, on fonctionne avec la chair. Donc tu peux déjà aller à la prochaine diapo. Quand on fonctionne comme ça, en fait, on fonctionne avec notre chair. Parce que fonctionner avec l'âme de cette manière, où c'est l'âme qui régente tout, et bien du coup, finalement, on se tourne entièrement vers le corps. Sauf que le problème, c'est que depuis que le péché est entré dans ce monde, il a pollué ce qu'est l'être humain, corps, âme et esprit. Et son corps et son âme, ils sont sous l'emprise de ce qu'on appelle la chair, qui est cette nature rebelle à Dieu en nous. Et donc, quand on fonctionne avec notre âme, finalement, on est conduit à être dans une attitude charnelle. Et cette attitude charnelle, elle peut aller loin. Elle peut aller loin parce que c'est pour des hommes et des femmes qui, justement, qui n'ont pas connu cette régénération de l'esprit, ça peut aller jusqu'à fonctionner avec ses instincts, fonctionner comme des animaux. Qu'est-ce qui se passe chez les djihadistes? C'est ça qui se passe. On fonctionne avec nos instincts. Et ça va aussi jusqu'à avoir une vision complètement désespérée du monde. On est dans le désespoir. Ça c'est les conséquences d'avoir une attitude charnelle. Dernièrement, j'étais aux obsèques de ma grand-mère maternelle. Et pendant la cérémonie, alors donc il y avait une cérémonie religieuse, on parlait de l'espérance, on parlait de la résurrection, mais c'était pas vécu. C'était une cérémonie traditionnelle, je dirais comme ça. Et donc tout était lu, c'était très protocolaire. Finalement, cette espérance dont on parlait, on la vivait pas. Et à un moment, avec ma sœur, on a voulu chanter un chant. Alors, c'était Grâce infinie. Mais parce que moi, j'avais envie justement de témoigner de cette espérance, qu'on puisse la vivre, quoi, cette espérance. Mais on sentait le poids en même temps de la mort. Et on voit comment on est dans une société où on a... finalement, on parlait de l'espérance et de la résurrection, mais moi, j'avais l'impression que c'était plutôt le triomphe de la mort. Dans la tête des personnes, c'était plus ça. Bien sûr, c'était des obsèques, donc c'est pas un événement. Il y a de la tristesse. Mais moi, ça me questionne la manière justement dont on comprend la mort aussi dans nos sociétés, parce que justement, on a perdu l'esprit. Mais sans aller jusque là, même quand on connaît l'esprit, même quand notre esprit a été régénéré. On peut se conduire en homme charnel. Et c'est ce qui se passe pour les Corinthiens. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Vous vous conduisez en homme charnel. Je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels. Je vous parle comme à des hommes charnels. Regardez, vous êtes en train de vous prendre la tête entre vous. Vous êtes en train de vous disputer. Il y a des querelles entre vous. Il y a des jalousies. Et effectivement, par cela, les Corinthiens manifestent que c'est pas l'esprit de Dieu qui les dirige entièrement. Qu'est-ce que ça pourrait être à notre niveau? Je pense quand parfois nous pouvons être dans, pas seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde, dans la critique. Quand nous sommes dans une critique où, parce qu'on considère que l'autre, il fait pas ce qu'il faut. L'autre, il fait pas ce qu'il faut. Il faut faire autrement. Pardon. Il faut faire autrement. Il faut faire de cette manière. Et on ne reconnaît pas, on voit pas les efforts en fait qui sont faits. On voit pas que ça c'est dans le monde du travail beaucoup, de plus en plus. Pourtant, on imagine quand même que la plupart des gens, ils essayent de faire leur mieux, mais ça va jamais. Ça va jamais. Ça c'est cette critique qui tue. Et ça, c'est une attitude charnelle. Je peux vous donner un exemple avec notre fille. Moi, en tant que papa, alors souvent, je suis en train de râler pour le rangement de la chambre. On a toute une période où, en fait, j'arrivais pas à voir les efforts, par exemple, que ma fille pouvait faire. Je ne voyais que, finalement, mon besoin. Je voyais que, moi, je voulais que cette chambre, elle soit rangée, nickel. Et finalement, j'étais plus dans la critique. Je ne faisais pas ressortir ce qui était bon parce que des efforts, elle en faisait. Quand on est comme ça, quand on est dans des relations, quand on est à une place en tant qu'homme ou femme qui n'est pas selon ce que la Bible enseigne, quand on n'est pas à notre place d'homme, en tant que mari, en tant que père, mesdames, vous n'êtes pas à votre place de femme, parce que je ne peux pas dire notre là, en tant qu'épouse, en tant que mère, là, du coup, quand on n'est pas à cette place-là, selon ce que la Bible enseigne, quand on ne cherche pas à l'être, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne jouent pas, mais on ne cherche pas à l'être. Là, on est dans une attitude charnelle. Avec Estelle, la manière dont on a grandi comme parents avec les enfants, moi Estelle, à un moment au début, c'était plus le père, c'était elle plus qui mettait les limites, Et moi, j'étais plus celui qui... j'étais plus le papa copain, quoi. Un peu laxiste. Voilà. Et on aurait pu rester comme ça. Et si on était resté comme ça, ben on serait finalement resté dans une attitude selon la chair. Après, ça provoque des tensions dans la famille, tout ça. Donc, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui vient nous montrer qu'il y a des choses qui ne jouent pas. Et on a écouté. On a écouté et on a replacé les choses comme il fallait. Un dernier exemple, quand on craint le surnaturel de Dieu, quand on craint d'aller plus loin dans la vie de l'esprit, là, on peut aussi être dans une attitude charnelle. C'est plus la chair qui conduit les choses. Alors bien sûr, il faut être prudent, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut écouter la sagesse, mais quelle sagesse ? La sagesse de Dieu. Mais qu'on marche dans un sens ou dans l'autre. Paul dit, marchez selon l'esprit, ne marchez pas selon la chair. Quand on ne marche pas selon l'esprit, on marche selon la chair. Peut-être pas tout notre être, mais des parties de nous. Ça peut être très subtil, mais il y a toujours... Mais ce que le Seigneur souhaite, bien sûr, c'est que nous marchions selon l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous donne la vie. Tu peux aller à la prochaine diapo. Alors, comment être spirituel ? Comment être des hommes, des femmes spirituelles dans un monde qui est coupé de l'esprit, qui est coupé de la vie de Dieu ? Parce que même quand on a rencontré Dieu, notre esprit est régénéré, il y a toutes ces choses qui continuent de vouloir nous influencer. Comment être spirituel ? Comment être cet homme, cette femme qui juge de tout et qui lui-même, elle-même, jugée par personne, c'est-à-dire qui juge de tout, la personne est tellement, je suis tellement imprégné de la pensée de Jésus que je suis dans la paix et que tout ce qui se passe en moi, ce qui m'entoure, je vais le comprendre selon la révélation de l'Esprit. Et je ne suis jugé par personne, je suis dans une paix tellement grande que je n'ai pas à me justifier. Comment être un homme, une femme spirituelle ? L'esprit, là, les mots deviennent pauvres. Là, c'est difficile d'expliquer. Parce que l'esprit, finalement, comme on l'a dit, l'âme ne peut pas connaître l'esprit. Notre intelligence, elle ne peut pas connaître l'esprit. L'esprit ne se réfléchit pas. C'est pas un miroir. L'esprit se réfléchit pas. L'esprit s'expérimente. L'esprit, on en fait l'expérience. Si je peux dire à partir de moi ce que j'ai réalisé, ce que j'ai compris de ce qu'est l'esprit, juste peut-être deux choses. L'esprit, on le vit dans la contemplation. Quand un moment on s'arrête, quand on se pose, dans cette vie qui est tellement trépidante, où il y a un rythme qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas. Alors bien sûr, il y a des moments où on vit l'esprit dans la puissance, on le vit dans l'activité. Là. Mais il y a des moments aussi, mais quand c'est que ça, est-ce que vraiment on vit ce qu'est l'esprit ? Moi, je suis quelqu'un qui, il faut tout le temps remplir le vide, il faut tout le temps être actif. Et là, Dieu est en train de me montrer comment vivre l'esprit, c'est justement prendre le temps et de s'arrêter, contempler qui il est, contempler ce qu'il fait en moi, contempler sa création, regarder justement ce qu'il faire ressortir ce qui est bon, faire ressortir ce qui va. Et ne pas regarder toujours ce qui ne va pas. L'esprit aussi, c'est l'amour. Dans quelle mesure c'est l'amour qui motive mes attitudes ? Dans quelle mesure je cherche à être bienveillant envers moi-même ? Quand je suis en train de courir tout le temps partout, quand je suis en train de me culpabiliser, quand je suis en train de dire « ouais, ça ne va pas, ça ne va jamais », dans quelle mesure je suis bienveillant envers moi-même ? Quand j'ai, je sais quelle est la bienveillance de Dieu, quand je sais à quel point Dieu est bon, quand j'ai compris à quel point Dieu est bon, quand je le vis, quand je le crois, quand j'ai confiance, là, je peux être bienveillant envers moi-même. Et là, je suis bienveillant envers les autres. Et là, je suis dans l'esprit. Quand je désire cette transformation, bien sûr, il faut se remettre en cause. Il faut se remettre en cause, mais l'esprit, c'est l'amour, et l'amour, c'est la patience. Se remettre en cause en étant patient avec soi-même. On n'avance pas à pas. On est dans la confiance envers Dieu. Oui, c'est le Seigneur qui me transforme. C'est le Seigneur qui me conduit. En ce moment, dans l'Église, on a à cœur, bien sûr, de vivre plus cette dimension de l'esprit, d'aller plus loin dans cette dimension de l'esprit, d'être justement des hommes et des femmes spirituels et pas, ne pas être charnels. On réfléchit à pouvoir vivre des cultes de louanges, d'adoration. Et ça, c'est des choses aussi qui peuvent nous aider à connaître ce qui est, à connaître encore plus ce qui est de l'esprit. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans notre vie de prière? On a connu ces derniers temps une vie de prière un peu plus intense dans nos soirées d'église. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin là-dedans? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la méditation de la parole? Quand on vient méditer la parole, rencontrer Dieu, pas pour amasser des connaissances, ça c'est bien sûr c'est important, mais quand on vient dans la parole, c'est pour rencontrer Jésus. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette méditation de la parole pour rencontrer vraiment qui est Jésus? Et comment on peut... C'est quoi les stratégies du Saint-Esprit? Lui, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a prévu pour cette Église? Comment lui, il veut toucher le monde qui nous entoure à partir de nous, à partir de ce que nous sommes? Souvent, quand je vais en France, je fais des voyages en covoiturage. Et du coup, c'est l'occasion d'avoir des discussions avec les personnes. Parce que dès qu'on me demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ah, mais je suis pasteur. Et donc, du coup, c'est toujours l'occasion de discussion. Et je suis souvent effaré de voir comment y a tellement de personnes qui disent « moi, je crois en rien ». Bon, il y a des fois quand on leur dit « mais tu crois vraiment que tu vas mourir, qu'il n'y aura rien après ?» je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose quand même. Mais souvent, voilà, les personnes, elles ne croient en rien parce qu'il n'y a pas d'esprit. Et ça suffit comme ça. On redeviendra poussière, point, ça, la vie s'arrête là. Oh. Et souvent, je me dis « mais comment ces personnes, elles peuvent être touchées ?» Et ma tendance naturelle, c'est de pouvoir vouloir argumenter, dire des choses, d'y aller avec ma réflexion. Hein. Alors que finalement, c'est pas... Et là, ça s'est fonctionné avec l'âme. Alors que c'est en étant spirituel où là, je vais témoigner de beaucoup plus qui est Jésus, de son amour. Je vais manifester qui il est dans mes tripes, dans ce que je suis. Que là, du coup, les personnes elles pourront être touchées. Le Saint-Esprit a un plan pour notre Église. Il a un plan pour nos vies. Lui, il sait comment toucher les personnes que nous avons envie de voir aussi gagner à Christ. Alors qu'on puisse vraiment lui emboîter le pas. Qu'on puisse accueillir cette vie de l'Esprit encore plus. On va prier à présent. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi nous qui ne connaissent pas Jésus. Et dont l'esprit est pas, qui connaissent pas Jésus et tu vois les tensions dans ta vie. Tu vois les tensions à l'intérieur de toi, tu vois les tensions dans tes relations, dans ta famille, dans ton travail. Tu vois des choses, tu sens des choses qui pèsent dans ta vie, des poids qui sont lourds, des choses qui sont bloquées, qui sont fermées comme des cadenas, on a entendu ce matin. Jésus est venu pour te délivrer de tout cela. Jésus, il est venu pour faire tomber ses poids. Jésus, il est venu pour te donner la paix. Et tu peux connaître qui il est, parce qu'il est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Il est là avec nous, il est près de toi. S'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, vraiment, vous puissiez accueillir la vie de Jésus. Vous puissiez laissez son esprit parler à votre esprit. Seigneur, je te remets ces personnes en particulier. Je te remercie pour l'œuvre que tu fais en elle. Je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui s'impose, mais tu viens frapper à la porte. Tu viens frapper à la porte, tu viens t'inviter. Je te prie que la porte puisse être ouverte ce matin. Et je te remercie pour les personnes aussi qui ouvrent la porte. Et merci pour ce que tu vas faire en elles, Seigneur Dieu. Merci pour ta paix qui vient. J'aurais à cœur là qu'on puisse les uns les autres, à nos places, avec notre voisin, notre voisine, prier les uns pour les autres. Qu'on puisse prier vraiment que cette vie de l'esprit elle puisse grandir, qu'on puisse demander à Dieu que Dieu il nous donne des révélations sur ce c'est quoi vivre en homme, en femme spirituelle. Que tu pries pour ton voisin, prie pour ta voisine, qu'on prie les uns pour les autres en demandant au Seigneur de nous faire aller plus loin.